Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh!
Ça, c'est de la vue! Ah, c'est magique cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène dans les abysses, dans les profondeurs de l'océan, exactement à 100 mètres de profondeur, puisque aujourd'hui, je suis avec Mathieu Marayot qui est descendu en apnée, c'est-à-dire en retenant sa respiration à 100 mètres de profondeur. Et je suis ravi de le recevoir sur ce podcast parce que bah, Mathieu, c'est un ami que je connaissais, que je connais depuis pas mal d'années, et je l'ai vu progresser, s'améliorer pour atteindre jusqu'à il y a quelques jours les 100 mètres de profondeur, et j'avais vraiment envie qu'il nous raconte cette expérience incroyable parce qu'il n'y a que très peu d'hommes sur Terre qui ont réussi à le faire. Salut Mathieu, comment
Salut
ça
Alex.
Va
ben écoute, ça va très très bien. Merci de me recevoir. C'est vraiment un immense plaisir de participer à ton podcast. J'ai écouté nombre de tes podcasts et ça me fait chaud au cœur d'être aujourd'hui de l'autre côté.
Bah, d'apporter ta pierre à l'édifice parce que tu as fait un voyage pour le coup, ça serait compliqué de trouver d'autres mecs comme toi. Hein, parce que vous êtes... Est-ce que tu sais à peu près combien de personnes dans le monde ont réussi ? C'est quoi ? C'est 50, 100 ?
Alors, de ce que je sais, c'est qu'on est moins d'une centaine de personnes à être descendues à 100 mètres.
Dans l'histoire de l'humanité.
Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a plus d'hommes qui ont été dans l'espace que d'hommes qui ont été à 100 mètres de profondeur en apnée.
Waouh !
Pour la petite histoire.
C'est notre Thomas Pesquet à nous, en fait, des profondeurs.
Le Thomas Pesquet des profondeurs.
Et justement, je voudrais que tu nous expliques, on reviendra après sur ton parcours, mais j'aimerais, parce que là, tu as fait une compétition, c'est ça ? C'était dans un cadre. Pourquoi tu es à 100 mètres de profondeur ? C'est pas genre, tu étais au bord de la mer,
non,
la mer est belle ! Hop, on prend la respiration, on y va. Comment ça se passe ?
Ça ne m'est pas venu comme ça, non, pas du tout. C'est quelque chose que je prépare depuis de nombreuses années. Et en fait, j'ai réalisé cette profondeur, cette performance à l'occasion des championnats du monde d'apnée qui se sont déroulés, qui se sont terminés même pour moi la semaine dernière. Et j'étais à Chypre.
Génial. Et c'était, je crois qu'il y a plusieurs, c'est un peu comme en boxe, il y a plusieurs confédérations, des trucs comme ça. Toi, c'était
AIDA, ouais. Alors, il y a AIDA. Il y a deux championnats, si tu veux. Là, c'était le championnat AIDA. Et en ce moment, se joue le championnat du monde CIMAS, qui est pour le coup en Turquie.
Ok. Et toi, du coup, c'est con, mais les championnats du monde comme ça, c'est que tu t'inscris ou comment tu fais ? Genre, bonjour, alors, je voudrais. Comment on t'accepte ?
Mais pour participer à un championnat du monde, il faut déjà participer à des compétitions en amont. Il y a des minima à réaliser. Et ensuite, une fois que tu es volontaire pour participer à ces championnats du monde et que tu as réussi les minima, il faut aussi qu'on te connaisse un petit peu, qu'on sache qui tu es, voir un petit peu ton passé quoi, d'apnéiste.
Bien sûr.
Et à partir de là, tu peux espérer entrer en équipe de France et aller participer aux championnats du monde. Voilà, donc c'était ça le truc.
Ah. Avant qu'on rentre dans le détail technique, en gros, là, c'est tout frais, c'est il y a quelques jours. C'est quoi la sensation quand on descend à 100 mètres de profondeur ? Parce que la pression de l'eau, elle est énorme. Ouais. Ton cœur, je ne sais plus, enfin, j'ai vu dans les reportages, tes poumons, ils ont la taille d'une pêche, d'une poire. Tes rythmes cardiaques, et décris-nous, qu'est-ce qui se passe ?
En fait, comme tu l'as dit, il se passe énormément de choses sur le corps. Des modifications physiologiques qui apparaissent liées notamment à la pression de l'eau qui augmente. Pour te donner un chiffre, à 100 mètres de profondeur, la pression elle est 11 fois supérieure à celle qu'on est là actuellement que je te parle. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? 11 barres de pression, c'est comme si tu mettais 11 kilos sur chaque centimètre carré de ton corps. Donc, il y a ça, c'est la première chose. La deuxième, tes poumons, ils réduisent, ils sont la taille d'une mandarine. Ils diminuent aussi à cause de la pression. Et le rythme cardiaque, comme tu l'as si bien dit, diminue également. Et on est entre 20 et 30 battements par minute.
20 à 30 ?
Ouais, 20 à 30, c'est vraiment très, très lent. Et ça, c'est encore une histoire de pression. C'est encore une histoire liée à la pression et il y a encore d'autres petits phénomènes. Je ne vais pas trop rentrer les détails parce que c'est un peu complexe.
Un petit peu quand même. Lâche un petit peu encore. Lâche-moi un petit truc.
L'idée, c'est que la circulation au niveau des bras et des jambes, les vaisseaux sanguins, en fait, si tu veux, ils viennent se rétrécir. Ils viennent se rétrécir pour venir alimenter les organes nobles comme le cerveau, les poumons et le cœur. Et en fait, ça, c'est un phénomène de protection. C'est le corps qui vient protéger en fait ces organes vitaux pour venir les alimenter et les protéger de ces...
Bien sûr, du manque d'oxygène et de ce qui est en train de se passer. Ouais. Je dis, voilà, c'est pas normal, vas-y, on va sauver la baraque, on va au moins aller dans le cerveau, quoi.
Ça, c'est pas un truc que j'ai... Enfin, c'est quelque chose que j'entraîne, mais que tout le monde a. Je suis pas un surhomme, je suis pas né avec des super pouvoirs. Si demain, tu commences à t'entraîner sérieusement en apnée, tout le monde peut arriver à déclencher ces phénomènes. Après, moi, dans mon cas, moi, je l'ai entraîné et je l'ai...
Bien sûr.
Je l'ai...
Tu l'as maximisé, tu l'as optimisé pour vraiment...
Je l'ai optimisé, voilà. C'est mon entraînement qui l'a rendu aussi puissant, quoi.
Bien sûr, ça, c'était sur le plan physiologique. Ouais. Déjà, t'as pris un 33 tonnes pleine gueule quand même, là.
C'est ça.
Parce que perçu, c'est un peu chiant. 11 kilos sur chaque centimètre. Moi, quand j'ai mon sac à dos de 20 kilos sur le dos, je suis dégoûté et c'est sur tout le dos. Hein. Tu vois, là, c'est 11 centimètres sur... Oh putain, 11 kilos sur chaque centimètre.
Mais ça peut paraître dingue, mais aussi dingue que ça puisse paraître, cette pression-là de ton corps, sur le corps, tu ne le ressens pas. C'est pas douloureux. Je n'ai pas l'impression de me faire rouler dessus par un camion. Je n'ai pas l'impression que mes poumons ils vont imploser. C'est vraiment une sensation. Tu es dans un état méditatif, en fait. Il faut comprendre que pour aller en bas, il faut un état de relaxation et de concentration très, 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 très élevé. Donc, en fait, si tu veux, j'en oublie un petit peu tout ce qui se passe. Tellement ma concentration, elle est centrée sur moi, sur le lâcher prise, sur la relaxation. Il faut vraiment... Je suis un peu comme si j'étais en train de faire de la méditation.
Bien sûr.
Pour ceux qui ont fait de la méditation, voilà, tu es centré sur toi, sur le moment présent, sur l'instant. Et tu ne penses pas à... bon, alors, je vais aller en bas. Dans combien de temps je vais arriver? J'espère que ça va bien se passer. Et puis après, il ne faut pas que j'oublie que je dois encore remonter. Tout ça, en fait, tous ces trucs-là, tu n'y penses pas parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'instant présent. C'est vivre l'instant présent.
Mais attends, parce que ce qui est fort, c'est que tu te dis à quel moment tu décides de descendre, en fait, dans le sens où quand tu médites, moi, je médite un peu tous les jours, pas à ton niveau aussi parce que voilà, j'ai déjà fait des retraites Vipassana où là, tu médites 8 heures par jour.
Ouais.
Et je sais que pour atteindre ce moment-là, déjà, ce n'est pas facile. Des fois, en plus, ce n'est pas tous les jours.
Ouais.
Et ça met du temps. Donc, est-ce que tu as le droit, en fait, dans la compétition, de dire « Attends, je ne suis pas prêt, en gros. Psychologiquement, je ne suis pas prêt. » Ou est-ce que tu as un timing ?
Alors, ce qui est compliqué dans une compétition d'apnée en profondeur, c'est que tu dois être prêt à l'instant T.
Oh enfin,
pour te resituer un petit peu comment ça se passe.
Il y a un top départ.
Ouais. Donc, en gros, je vais t'expliquer le processus. Sur une compétition d'apnée, tu dois annoncer la profondeur à laquelle tu veux aller la veille.
Okay.
Donc, tu annonces, t'écris sur un bout de papier, je veux aller à 100 mètres. Ensuite, tous les autres concurrents font la même chose. Et le lendemain, le jour d'après, la corde est réglée pour chaque participant à la profondeur annoncée. Cette corde, elle est réglée, elle est métrée et tu ne peux pas aller plus profond, même si tu te sens bien. Tu ne peux pas te dire, allez, vas-y, rajoute 10 mètres, je suis chaud.
Voilà. Bon, pour la déconne, allez, j'en rajoute un ou deux de plus.
Donne du mou, Jean-Louis.
On est bien au fond.
Donc, il se passe ça. Et en fonction des annonces qui ont été faites, tu vas avoir un top officiel. Donc, par exemple, tu passes le lendemain à 9h03. À 9h03, tu as une fenêtre de 30 secondes. Si à partir de 9h03 et 30 secondes, tu n'as pas commencé ta plongée, tu es disqualifié. Ouais.
Donc, la vache. C'est à l'instant présent, il a intérêt à venir vite, hein, putain.
C'est ça qui est très complexe en fait dans les compétitions d'apnée, c'est qu'il faut être prêt à l'instant T. Et si t'es pas prêt, et tu passes ton tour et ce sera pour le prochain coup.
Donc il n'y a pas de deuxième essai en plus.
Ah non, c'est one shot.
Ah les bâtards. Ouais. Ah les bâtards, il y a une mouche qui est venue sur mon nez à ce moment-là, ça m'a déconcentré. Attendez.
Grave.
Ah ouais.
Et si tu veux pour la petite histoire. La première fois où j'ai fait le 100 mètres, donc c'était pas pendant les championnats du monde, c'était la compétition juste avant, c'était la pré-compétition. Moi, je passe, je sais plus l'heure exacte, je vais te dire, on va garder 9h03. J'arrive, je suis sur un bateau, je regarde le timing et là, je me dis, bon, c'est peut-être le temps d'y aller. Pour moi, il me restait 10 minutes. Sauf que je n'ai pas bien géré mon timing et arrivé sur la ligne, le juge, il me dit départ dans 3 minutes. Ça veut dire quoi? Départ dans 3 minutes, j'avais toujours pas ma monopalme sur les pieds, j'avais toujours pas commencé à faire ma respiration de préparation. Il y a une relaxation où je dois faire tomber mon rythme cardiaque pour partir dans les meilleures conditions.
Bien sûr.
Et là, le mec, il commence à envoyer le décompte. 2 minutes 30. Et là, il y a mon pote qui est à côté de moi, il commence à me regarder avec des grands yeux. T'es sûr que tu veux y aller? T'es sûr que t'es prêt? Et en fait, pour moi, j'avais pas d'autre choix que de rentrer dans ma bulle, que de rentrer dedans et d'y aller, quoi. C'était aujourd'hui, c'était maintenant, il fallait que j'y aille, quoi. Et en fait, il fallait que je me mette dans cette bulle pour pouvoir me préparer, mais en un temps très réduit. J'ai mis,
Habituellement, c'est combien de temps?
bah, en temps
C'est 20
normal,
minutes?
non, moi je prends 5 grosses minutes de respiration à la surface, où je respire un petit peu visage dans l'eau avec le tuba. Ensuite, je m'allonge sur le
Ok.
dos. J'ai un petit coussin sous la nuque, tous les petits coussins de voyage. Et
Ouais.
je m'allonge et je fais mon protocole respiratoire. Donc c'est vraiment une respiration très calme, très lente, comme si finalement tu regardais la télé ou tu étais en train de bouquiner.
Ouais.
Voilà, c'est pas une respiration yogique très complexe.
Ouais, où tu vas aller exploser tes poumons, faire des
Non, non,
grandes
non.
respirations. Là, c'est vraiment relax au
C'est
max. Ok.
voilà, c'est hyper relax. Dans ma tête, je pense à rien. Je pense strictement à rien. Je pense même pas à ma plongée. Je pense à rien du tout parce que ma plongée, en fait, elle est déjà organisée dans ma tête et elle est préparée depuis la veille. Donc,
Attends, Matt, on est d'accord, je t'arrête, mais
dis-moi.
là, tu sais, penser à rien, c'est dur. Penser
Ouais.
à rien quand dans 3 minutes, ou même quand tu as le temps, 5 minutes, tu dois aller à 100 mètres de profondeur,
Ouais.
qu'est-ce qui fait, tu vas me dire c'est l'entraînement, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la pression, que tu n'es pas tendu,
Alors,
que tu n'as pas peur, enfin.
je te dis pas que j'ai pas de pression, je te dis pas que j'ai pas peur.
Ah,
Je t'avais pas dit
vrai?
ça.
C'est vrai?
Ah bah ouais, non, non. Et je pense même que avoir peur, ça fait partie un petit peu du jeu et c'est normal, c'est humain. Si je te disais que j'avais pas peur avant de descendre, je serais un menteur.
Ah, c'est fort, c'est encore plus fort.
Et je pense que c'est important d'avoir peur parce que ça conditionne ton mental, ça conditionne tes alertes et il faut te dire finalement que voilà, il faut être aux alertes de tous les signaux, sur soi, se ressentir comment tu es à l'instant T, est-ce que tu es capable vraiment d'y aller? Parce que sous l'eau, tu peux pas mentir.
Ah ben, il n'y a pas de raccourci, hein.
C'est pas comme quand tu fais un marathon, t'en as marre, tu t'arrêtes, t'appelles la voiture balai et tu rentres à la maison. C'est pas comme ça. Sous l'eau, quand
T'en as
tu
marre,
es.
bah remonte,
Ah,
bah
bah,
démerde-toi, mon pote.
remonte-moi, j'en ai marre. Non, non, je suis fatigué, je veux pas le savoir.
Franchement, j'ai une petite crampe là. Franchement, si
Voilà.
tu peux, Jeannot, là, avec ta bouteille, si tu peux me remonter, ça serait
Amène un
sympa.
coca, là, j'ai un petit manque de sucre. Donc, ça se passe pas comme ça sous l'eau. Sous en apnée, tu peux pas mentir. Donc, pour revenir à ce fameux départ, voilà, j'ai 2 minutes 30 pour partir. Il y a deux choix possibles. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Voilà. Mais
Cartésien.
à partir du moment où j'ai décidé d'y aller, eh ben, j'y vais et je me donne les moyens d'y arriver et de réussir. Donc, moi, je suis un battant, je suis pas là pour faire de la participation. Donc, j'y vais.
Exactement.
Donc, j'y vais. Et je me donne tous les moyens pour y arriver. Mais c'est dur. Physiquement, mentalement, surtout, c'est très dur parce qu'avant de descendre, je n'ai pas encore réussi finalement à ralentir mon rythme cardiaque. Je n'ai pas eu mon
OK.
protocole qui me permet de
OK.
réduire le rythme et d'être vraiment prêt, quoi. Donc,
Ouais.
avant de partir, je sens en fait que mes pulsations, elles sont encore assez hautes. J'en ai conscience, hein, je le sais, mais bon, j'y vais quand même, quoi. Et finalement, la plongée, bah, elle est moins plaisante que d'habitude parce que j'ai eu ce coup de stress avant de partir, parce que j'ai eu le rythme cardiaque qui n'est pas bien descendu, parce que j'ai peur. Et puis, c'est mon premier 100 mètres. Voilà,
Ah, mon
c'est pas
pote,
rien. C'est pas comme si
c'est
j'allais.
pas rien.
Voilà, c'est mon max.
Ah, puis t'es pas là pour le faire comme Usain Bolt. Hein. Lui, c'est 9 secondes des poussières. Toi, c'est combien de temps ?
Donc, ça prend
combien
de temps, c'est ? Un peu plus de temps. Alors là, je descends avec une monopalme. Donc, c'est
oh assez... Attends, mais tu l'as fait en monopalme, le 100 mètres ?
Ouais, ouais, comme une, comme un sirin.
Comme un sirois, un sirois.
Un sirois, un sirin.
Ouais, attends, ouais, attends, mais moi, je pensais que tu l'avais fait en bipalme. Attends, mais c'est encore dur. Alors, c'est encore plus dur.
Non, en bipalme, ça aurait été plus dur. C'est,
ah bon ?
En monopalme, c'est plus facile.
Ah, quand tu as la bonne technique. Alors, monopalme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, donc, c'est une seule palme. Enfin, ouais. C'est deux pieds qui sont collés. C'est et ça a la forme d'une queue de baleine, d'une queue de dauphin.
Ouais,
en
d'un
fait.
Aileron.
Un aileron, c'est sur le dos, je crois. Mais,
une queue de baleine, si tu préfères.
Queue de baleine.
une queue de baleine.
Ouais, voilà, on n'est pas très bon. On n'est pas super fort en termes d'anatomie animale.
Voilà.
C'est assez, mais voilà.
On a compris.
Ah ouais, tu descends en monopalme. Alors, c'est pour ceux qui ne connaissent pas aussi, ce mouvement, c'est comme un serpent, mais en avant. Enfin, tu ondules, en fait, d'avant en arrière.
C'est l'ondulation, ouais. C'est le bassin, en fait, qui va...
Ouais, t'as un vrai jeu de bassin. On m'avait déjà dit ça.
Ouais, ça se travaille. Ça se bosse. C'est l'entraînement.
Et du coup, ça dure combien de temps, là, cette descente et cette remontée ? Parce que pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est pareil. Hein, y a pas un, t'appuies pas sur un bouton. C'est pas comme dans le Grand Bleu, là, où tu vois, tu appuies sur un bouton, t'as de l'air. Non, là, c'est tu descends et tu remontes.
Et tu remontes, voilà. Ça dure 3 minutes.
3 minutes ?
3 minutes.
En dynamique ?
Top chrono, en mouvement.
Putain, mec, c'est infernal. Moi, je sais que mon apnée statique, tu sais, quand tu es dans la piscine, là, quand tu passes ton niveau 2, là, j'ai fait 3,40, hein, 3,42. Et je pense que j'ai choqué pendant une minute trente, j'étais là, mais ça brûlait, c'était l'enfer. Tu me demandes de bouger à ce moment-là, mais mec, c'est bon, c'est foutu pour moi.
Mais après, tu sais que justement, c'est les phénomènes de pression sous l'eau, comme tu as ton rythme qui réduit, t'as vraiment, t'es ankylosé par la pression, t'es enlacé par la profondeur, t'es vraiment... l'état méditatif est un peu anesthésié. Quoi. C'est-à-dire que moi, la sensation de l'envie de respirer, ben en fait, soit je ne m'en rappelle pas, soit je ne l'ai pas. Mais,
oh, le délire.
Mais quand je finis une apnée, je n'ai pas la sensation d'en avoir chié plus que ça sur je vais crever parce que j'ai envie de respirer. Alors, je me dis, il y a peut-être deux choses qui se passent. Soit je suis complètement anesthésié par la profondeur et que et je ne m'en rappelle plus. Ou alors
t'es plutôt bon
ou alors ça va.
Non mais attends, tu sais, c'est marrant ce phénomène. Je sais qu'il y a Guillaume Néry qui avait fait donc le grand apnéiste français qui avait fait une vidéo sur je crois que ça s'appelait Narcose normalement, si je ne dis pas de bêtises.
Narcose, tout à fait, ouais.
Donc Narcose, c'est le phénomène d'hallucination un peu dans des profondeurs, je le résume un peu comme ça, je pense que c'est ça,
tout à fait,
qui est plutôt connu sur la plongée bouteille, puisque tu as l'azote des bouteilles qui, à la profondeur, amplifie vachement, etc. Et surtout, tu restes plus longtemps.
Ouais. Mais apparemment, c'est un petit peu différent.
Voilà. Et du coup, est-ce que tu l'as déjà eu, ce phénomène-là ?
Je l'ai déjà eu quelques fois.
Flippant.
Après, c'est des sensations vraiment assez… ça peut être très, très sympa comme très, très badant.
Ah ouais, mais justement, t'as eu quoi, toi ? Ça se manifeste comment ?
Alors, moi, ça s'est manifesté plusieurs fois. J'avais l'impression de voir des personnes. Alors, c'est souvent la dernière personne que j'ai vue avant de plonger.
OK. Donc,
je la vois sous l'eau. J'ai l'impression de la voir sous l'eau. Et j'entends des voix aussi.
Oh, putain.
Soit on me parle, soit on me raconte des conneries. Et la dernière que j'ai eue, c'était sur ces 100 mètres-là. En fait, j'ai vu mon pote qui s'appelle Nicolas. Je l'ai vu sous l'eau et je l'ai entendu. Mais je l'ai entendu, tu vois, parce qu'on avait l'habitude pendant à ce moment-là de se raconter des conneries en italien ou avec un fort accent italien. Et bon, bref, je vais te passer les détails de ce qu'on pouvait raconter. Mais en gros, je l'entendais sous l'eau, me racontait des conneries avec un accent italien. Et je voyais sa tronche et j'étais pas mort de rire parce que j'étais quand même concentré. Mais j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Et je me disais, mais putain, c'est pas possible. Même sous l'eau, je l'entends celui-là.
Putain, mais attends, mais comment tu fais pour pas te déconcentrer alors que là, c'est comme si on vient te... Tu sais, c'est comme les supporters adverses qui viennent te gueuler à l'oreille, quoi, pour te déconcentrer. Ouais, c'est un délire.
C'est ça. Oh, mais c'était ouf. C'était drôle. C'était vraiment drôle. Pour le coup, c'était pas bad tripant. Mais c'était vraiment sympa.
Et le bad trip?
Et le bad trip,
si je comprends bien,
il y en a eu un qui remonte à assez longtemps. C'était sur une apnée c'était en Méditerranée, c'était à Nice. Et en gros, à Villefranche. En gros, je remontais de 90 mètres en immersion libre, donc en tractant sur le câble. C'est une autre discipline.
Ouais. Attends, t'es descendu à 90 mètres et t'es remonté à 90 mètres, c'est ça? Enfin, ouais. De 90 mètres, juste à la force des bras, à chaque fois?
Ouais, juste à la force des bras. Ouais. Ouais.
Même en descendant?
En descendant et en remontant.
Oh, putain, ouais. Mais t'es un malade!
Mais j'ai fait 100 mètres aussi dans cette discipline.
Quoi?
Ouais!
Ah, mais tu m'avais pas dit ça!
Bah, je peux pas tout raconter d'un coup, faut en garder un peu.
Oh la vache, le mec, il y en a sous le capot, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, tu descends à la force des bras.
Ouais, ça s'appelle l'immersion libre. Donc, tu descends à la force des bras, t'as pas de palme. Et c'est vraiment à la seule force des bras que tu te tractes sur le câble. Et là, en fait, quand je remontais, en fait, donc j'étais en train de remonter à la surface, on est d'accord? Sauf que moi, dans mes sensations, j'avais la sensation que quand je tirais pour remonter, que je descendais. Attends, c'est pas fini.
Oh non.
C'est pas fini. Donc, j'ai la sensation que je remonte, que je descends alors que je remonte. Et en même temps, j'ai la voix de mon frère que j'ai vu juste avant de descendre, qui était sur le bateau. Et il me dit « Qu'est-ce que tu fous, Matt? Arrête tes conneries, remonte.
Oh. »
Il me dit ça. Il me dit ça et en même temps, j'ai l'impression de descendre alors que je dois remonter. Donc, je suis complètement perdu dans ma tête. Mais je prends quand même conscience que je suis pété, quoi, en fait. Je suis narcosé, je le sais. Et j'arrive à faire la part des choses, tu vois, quelque part. Mais c'est là toute la difficulté dans l'exercice.
La dangerosité du moment.
La dangerosité,
aussi.
Parce que tu peux vite perdre pied, tu peux vite paniquer. Et la panique sous l'eau, à ces profondeurs-là, elle n'a pas sa place.
Non, c'est pas possible.
Voilà.
Ça rend ouf.
Ah non, c'est flippant. Je suis d'accord, mais bon.
Qu'est-ce qui fait que... Parce que là, les gens ils vont se dire, mais... Tu sais, il y en a qui disent, mais comment je fais pour descendre? C'est dangereux, etc. Justement, là, c'est une discipline, mec, que tu as choisie, qui est noble, qui est magnifique, que moi, j'adore à mon micro-niveau.
Ouais.
Mais toi, là où tu vas aller le chatouiller, c'est quand même… Là, tu mets ta vie en danger à chaque fois.
Alors,
comment tu gères ça? Comment on gère la peur, en fait?
Alors, déjà, moi, je n'ai pas la sensation de mettre ma vie en jeu, ma vie en danger à chaque fois que je vais plonger. Parce que je suis prêt, parce que je m'entraîne pour, et si je suis à ces profondeurs-là, c'est que j'y suis pas arrivé par hasard. Il y a des mois, il y a des années d'entraînement derrière tout ça, et je m'entraîne quasiment toute l'année pour y arriver. Donc, c'est pas un coup de poker où je joue pas à la roulette russe quand je descends à ces profondeurs-là.
Okay.
Vraiment, je veux remettre les choses dans le contexte, et je cherche pas du tout à flirter avec la mort en faisant de l'apnée en profondeur. Bien au contraire. Moi, c'est quelque chose que les gens ont un peu en tête dans le souvenir du Grand Bleu qu'on a tous vu, où les mecs, ils vont voir les sirènes et ils veulent danser avec les dauphins et rester en bas. Moi, c'est pas du tout mon état d'esprit. Moi, j'ai pas du tout envie de rester en bas, même si j'adore aller en bas, mais j'oublie pas que ma place, elle est pas en bas. Elle est sur Terre, elle est bien sur Terre. Et moi, c'est vraiment pas le fait de flirter avec la mort qui m'intéresse, c'est plutôt flirter avec la vie. Parce que quand
c'est ça que j'allais dire, tu vas exactement la question qui me brûlait depuis tout à l'heure, pourquoi tu décides de faire ça? C'est quoi ta motivation?
Parce que c'est quelque part, c'est l'endroit où je me sens le plus vivant, en fait.
Alors que tu es au aussi, ralenti, c'est aussi, ça qui est fou. Enfin, explique, tu es au ralenti.
Aussi dingue que ça peut paraître, je suis dans un élément que je connais, qu'on connaît tous. On a tous été dans un liquide pendant 9 mois, on est tous faits d'eau, on est tous des habitants de la planète bleue et on a tous ce rapport à l'eau qui est indéfectible et on a tendance à l'oublier, mais l'eau, c'est notre élément, c'est de là d'où on vient. Et quand je plonge, c'est vraiment ce contact avec l'eau que je recherche. C'est ce contact qui amplifie toutes mes sensations de terrien finalement, où je me sens voilà, beaucoup plus vivant. Et puis, il y a cette dimension respiratoire où en fait, le fait d'arrêter de respirer, ouais. Le fait de plus entendre, de plus parler, de plus respirer, c'est être retrouvé sous l'eau. C'est quelque chose en fait qui fait un cut, une pause avec la surface et avec tout ce qui peut se passer, toutes les trucs parasites qui peuvent te manger la tête au quotidien.
Voilà. Bien sûr.
Et ben, en fait, c'est un peu comme une presque une thérapie, tu vois.
C'est ça que j'allais te demander. Je te connais déjà depuis quelques temps. Ouais. Je connais aussi ton parcours et tu nous en parleras. Tu as quand même été quelqu'un, tu as toujours été très sportif, très actif, mmh. Tu es quelqu'un qui mord la vie à pleines dents. Ouais. Et dans le côté sportif comme dans le côté fêtard, tu as un bon vivant, ouais. Tu as un gros fêtard.
C'est ça.
non, mais justement, en fait, ce qui est dingue, c'est de voir que tu… Qu'est-ce que l'apnée, ça t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Alors que normalement, ouais. Ton caractère et ton quotidien est à l'opposé de l'apnée, soit en termes d'hygiène de vie et de côté un peu hyperactif. Comment ouais. T'en es arrivé là?
Mais justement, en fait, c'est ce côté-là dans l'apnée qui me plaît et qui m'a énormément appris de la personne un peu hyperactive, un peu ou alors quand j'étais gamin, je me rappelle, j'étais timide tout ce que l'apnée m'a appris, en fait, c'est énorme quoi. C'est un générateur de vie, c'est un générateur de plein de choses.
Balance quelques petites leçons quand même.
Des petites leçons,
sympa. Ça serait quand même sympa.
La persévérance, déjà, la persévérance, la patience et la passion. La règle des 3 P. Je pense que si tu veux percer dans quelque chose que tu fasses, il faut ces trois petites choses, ces trois belles choses, la patience, la persévérance et la passion. Moi, c'est grâce à ces trois belles choses que j'y arrive en fait en profondeur. Et ce que j'apprends en profondeur, j'essaye de le transposer au mieux dans ma vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas toujours facile d'être patient, ce n'est pas toujours facile d'être persévérant, mais j'y arrive et j'essaie en tout cas de le transposer le mieux que possible dans la vie de tous les jours.
Tu penses que ça t'a, que justement l'apnée, ça t'a changé?
Ah ouais, ça m'a transcendé même. Moi, depuis que je pratique l'apnée, j'ai envie de dire que je ne suis plus la même personne presque.
T'es devenu chiant? Non, je...
non, t'inquiète. En soirée, je suis toujours imbuvable. Hein, mais,
Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai eu peur.
mais c'est plus un équilibre, en fait. C'est arriver, tu vois, parce que être toujours en mode tougher, être toujours en mode hyperactif, être toujours en mode bam, 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 c'est pas possible. Et en fait, l'apnée, c'est ça te parle ce que je dis.
Ça me parle.
C'est pour ça que tu t'es mis à l'apnée aussi, là.
Hein, certainement.
Et finalement, en fait, l'apnée, c'est ce qui te permet de contrebalancer tout ça, de parce que la vie est une question de balance.
Évidemment.
Si tu es toujours dans un extrême, tu pètes les plombs, quoi.
Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est surtout que ça te permet d'évoluer. Et comme tu dis, c'est une discipline où il y a tellement en jeu. Mm-hmm. Il y a l'enjeu du bien-être, de la relaxation, ouais. D'apprendre à te connaître.
C'est là aussi où je voulais en venir. Putain, on est connecté ce soir, Alex.
Ah, il y a quelque chose. Mais il y a toujours une petite frétillement.
Il y a un petit truc.
Ah, toujours.
C'est ta petite barbe, ça, j'en suis sûr.
Pas possible que la tienne.
Ça viendra. Et ce côté-là de l'apprentissage sur soi, sur le contrôle de soi, sur la respiration, sur le côté mental aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du physique, mais le côté mental dans l'apnée, il est primordial. Et c'est vraiment une des cartes maîtresses. On dit que le mental dans l'apnée, c'est 70% de la performance. Ouais. Et cette année, j'y ai mis vraiment un point d'orgue dans ma préparation où j'ai été accompagné par une coach mentale. Et on a fait un travail tous les deux vraiment.
C'est génial. C'est génial, ouais. Parce que j'ai toujours entendu qu'effectivement, n'importe quel sportif de haut niveau et dont tu fais partie, ouais. Un sportif de très haut niveau, ils ont toujours des coachs mentaux aussi. Et
ouais.
qu'est-ce que tu fous avec un coach mental? Il dit, franchement, mec, t'es super fort. Allez, allez, tu vas gagner.
Top, enfin,
non, mais excuse-moi, mais je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'elle a un background de psy pour débloquer des choses? Quoi, en fait, qu'est-ce que vous faites? Et elle a quoi comme background?
C'est assez vaste ce qu'on fait. Après, je vais t'expliquer de manière assez simple. Elle a une formation dans le coaching mental et elle est psy aussi à côté. Donc, voilà, pour travailler sur ta personnalité, sur ta motivation, sur ta confiance en soi, en toi. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi ça te fait peur? Comment contrer tes peurs ou comment mieux les accepter et mieux les gérer au quotidien. Donc, il y a déjà tout un travail de questionnement sur ta personne. On a fait des questionnaires, mais elle m'a posé énormément de questions. Sur déjà savoir mes motivations. Pourquoi est-ce que je fais de l'apnée? Qu'est-ce que ça m'apporte? D'où est-ce que je viens? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Enfin, voilà, c'est vraiment, on liste plein de trucs. Et après, on vient mettre le point sur des trucs bien précis. Donc moi, dans mon cas, c'était le stress en compétition qui me posait un problème. Donc c'est marrant parce que tu vois, au début de ma carrière, quand je faisais des compétitions, je disais non, le stress, je ne suis pas stressé. Le stress en compète, ça n'existe pas, franchement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, je suis grave stressé en fait.
Ça réduit tes capacités forcément.
Ça te fait perdre tes moyens. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu travailler. Alors, dans la préparation mentale, ça englobe plein de choses. C'est de la visualisation, de l'imagerie mentale où tu prépares ta plongée en fait. Quand tu fais une plongée en apnée profonde, ça se prépare en fait, c'est 24 heures avant que tu la prépares. C'est pas, tu arrives sur le câble et tu dis, bon allez, c'est parti, je suis chaud, on y va quoi.
Bon, il y a un peu de profondeur, il y a 100 mètres, allez on y va.
Vas-y Bernard.
Lâche le lest, c'est parti.
Lance le chrono, j'y vais. et donc, c'est ce travail-là qui est super important, qui est primordial. Et donc, ça se travaille déjà vraiment la veille. Mais ça se travaille quelque part un petit peu toute l'année. Quoi.
C'est, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres tips? Parce que ça, j'aime bien, j'avais déjà entendu sur ce côté, la visualisation, que ce soit, j'ai toujours entendu les sportifs de haut niveau qui visualisaient leur match en train de marquer. Arnold Schwarzenegger qui disait aussi, moi, je me visualisais en train de gagner et en voir déjà mon corps comme je le voulais pour atteindre tel niveau. Et en fait, il se sent et s'imagine régulièrement dans la situation de victoire dans laquelle il veut l'atteindre.
Il faut te mettre dans cette situation-là.
Est-ce qu'il y a d'autres justement tips comme ça que tu as pu partager?
Moi, par rapport à mon sport, c'est comme je te disais au début, c'est l'instant présent qui est super important. L'instant présent et le focus sur son corps. Moi, je fais énormément de body scan.
Quand j'étais venu aux Philippines, tu m'avais.
Ouais, c'est un truc que j'ai mis en place depuis pas mal de temps.
Est-ce que tu peux décrire ce que c'est pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te rencontrer aux Philippines?
Le body scan, j'utilise. En fait, tout le monde peut le faire parce que moi, je l'utilise grâce à YouTube. Et en fait, sur YouTube, tu peux simplement taper Yoga Nidra. Et en fait, le Yoga Nidra, petit clin d'œil à Sylvie qui m'a initié à ça, d'ailleurs aux Philippines, que tu as invité dans ton podcast.
Exactement, qui avait nagé avec des baleines et qui m'avait tellement inspiré pour réaliser ce rêve que j'ai eu la chance de faire des années après.
Tout à fait. Le Yoga Nidra, en fait, c'est ça, c'est une voix qui te guide sur chaque partie de ton corps, des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Et en fait, tu visualises et tu scannes chaque partie de ton corps. Et en fait, en faisant ce travail-là, tu vas vraiment dans la relaxation profonde et tu vas chercher chaque zone de tension dans chaque partie de ton corps. Donc, et moi, quand je fais ça, donc ça dure entre 20 et 30 minutes, ça dépend. Et à la suite de ça, moi, j'ai l'impression que mon corps, il est lourd. Je me sens ankylosé, je me sens très très lourd.
Je pensais que tu allais me dire l'inverse, je me sens tellement léger, détendu. Non, je me sens lourd, j'ai la gueule de bois.
Bah, à quoi ça dépend sert comment tu le ressens, mais non, moi j'ai cette sensation d'être lourd dans mon lit, tu vois, d'être vraiment complètement relâché, que les muscles sont complètement détendus.
Ah.
Tu vois ce que je veux dire?
Yes.
Et en fait, à la suite de ça, bah, ce que je ressens à ce moment-là, en fait, j'essaie de le transposer sous l'eau.
Ah ouais, et en fait, ouais, tu te relâches complètement. En fait, tu programmes finalement ton cerveau à rentrer dans cet état-là un peu tous les jours. Tu le fais tous les jours?
Non. Alors, ce serait bien que je le fasse tous les jours, mais ça, je le fais vraiment en phase d'entraînement profond et de compétition. Et ça, en fait, ma routine la veille, c'est un body scan de 20 à 30 minutes. Et derrière ce body scan, je fais une visualisation complète de ma plongée. Où en fait, j'ancre tous les mécanismes que je dois réaliser. Parce qu'il y a des trucs bien précis que je dois faire, notamment pour la compensation des oreilles.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout
l'apnée? En fait, ce qu'il y a de compliqué, de complexe dans l'apnée en profondeur, c'est la compensation des oreilles. En fait, comme on parlait, la pression elle augmente et le tympan, l'oreille interne, il va rentrer à l'intérieur.
Mais en fait,
cette pression, ton tympan il rentre et il pète.
Et c'est souvent ce que les gens disent, mais comment tu fais pour aller à plus de 10 mètres? Moi, dès que je vais à 2-3 mètres, j'ai déjà mal aux oreilles.
Ouais,
ça me fait très mal.
Parce que ces gens-là ne... Parce que les gens ne compensent pas, ou alors s'ils le font, ils le font de la mauvaise façon.
Alors, qu'est-ce que décompenser et comment on fait pour ceux la prochaine fois qui veulent se chauffer pour leurs prochaines vacances?
Je vais expliquer d'une manière très, très simplifiée. En gros, tu pinces ton nez et
comme si
tu voulais te moucher par le nez. Voilà. Et. Bon, expliquer comme ça, c'est très vulgarisé, mais moi,
ça fonctionne.
Ça fonctionne. Et en fait, l'apnée en profondeur, à aucun moment, ça doit faire mal. Ni aux oreilles, ni aux poumons, ni à la tête, les histoires de pression qui t'explosent le crâne. Ça, c'est des urbaines légendes. Les seuls problèmes que tu peux avoir, c'est les oreilles, mais c'est quand tu gères mal la compensation ou que, voilà, soit tu le fais pas, soit tu le fais mal.
Bien sûr.
Moi, quand je vais à 100 mètres, je ressors pas avec les oreilles en sang. Il y a aucune douleur. C'est vraiment dans la maîtrise.
Et qu'est-ce qui est compliqué? Tu disais que c'était compliqué, justement.
Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on se sert de l'air de nos poumons pour venir l'envoyer dans les oreilles. Et comme les poumons rétrécissent, ils deviennent tout petits, et ben, il n'y a plus d'air dedans. Donc,
ça veut pas décompenser.
Ça veut pas. Mais si ça veut pas, tu peux pas y aller.
Ouais,
voilà.
Putain.
Donc, nous, on fait ce qu'on appelle le mouse fill. C'est en fait, avant que les poumons soient trop réduits, on vient faire une réserve d'air dans la bouche et on se sert de cet air. Mais bon,
tu te le mets sur le teco. Ça, c'est ma petite réserve à moi.
Ma petite réserve, ma petite bouteille d'oxygène à moi.
Ah ouais.
Mais c'est c'est une technique très, très avancée. Tu n'as pas besoin de ça pour aller
à
40 ou 50 mètres. Ça vient bien plus tard.
Ouais, et puis je sais pas, je me sens. Ouais, je sais pas, 50 mètres non plus. Déjà, si un jour je vais à 30, faudrait que je me chauffe pour aller à 30 déjà. Pour donner une idée du truc complètement fou, pour ceux qui nous écoutent, que Mathieu fait, donc aller à 100 mètres, mon record, c'est 23 mètres, tu vois.
Ouais,
donc autant te dire que.
Tu sais, je n'ai pas commencé à 100 mètres. Hein.
Mais d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir.
Ouais.
C'est quoi, en combien de temps, il y a combien d'années que tu as commencé, et en combien de temps on arrive à 100 mètres, tout en sachant que tu n'étais pas en mode forceur, en mode forceur,
tu étais
en mode j'apprécie mon parcours d'apnéiste, et c'est cool, et petit à petit je me rends compte que j'améliore mes capacités, je vais un peu plus bas,
Ouais.
Je crois que quand je t'ai rencontré aux Philippines, c'était il y a 5 ans, ça remonte bien, ça va faire 6 ans, je crois.
Ouais, ça fait un bail déjà.
Ouais, ça fait chiant, c'est chiant ça. Mais je crois que tu étais à 70 mètres, tu étais à ce moment-là.
Ouais, c'est possible. Ouais,
et tu vois, ce qui est fou, c'est 6 ans pour faire 30 mètres de plus. Enfin, c'est. Raconte-moi le parcours. Tu as commencé comment l'apnée? Qu'est-ce que t'as foutu, quoi? T'es arrivé à 100 mètres.
Tu devrais déjà être à 150.
Alors, c'est pas dans ce sens-là. Comment t'as débarqué à 100, tu vois?
En gros, l'apnée, comment j'ai découvert l'apnée? Tu veux que je recommence depuis tout le début ou quand?
Ah, ben moi, je veux que. Comment t'es tombé dedans?
Parce que je sais
très bien que t'étais pompier professionnel à Paris.
Paris.
On sent que quand même il y a quand même un gars qui a un certain niveau physique quand même, un certain entraînement. Donc il y a une base. Ça a les commencé... pompiers, il y a aussi une base, ça fait la fête, machin. C'est un balance d'hygiène de vie pas toujours évident à garder, ouais. Mais
comment... une balance quand même.
Une balance quand même, bah, sinon tu ne suivrais pas. Comment tu, justement, c'est la première fois que tu as commencé à faire ça ou tu as été initié et qu'est-ce qui s'est passé derrière?
Alors, moi, pour retracer rapidement mon parcours, l'apnée, je suis tombé dedans quand j'étais tout gamin, je pense. Je pense que c'est chose que j'ai dans mes gènes depuis... je pense que même avant que je naisse, c'était déjà quelque chose qui était ancré en moi.
D'accord.
Ma mère, elle allait nager quand elle était enceinte de moi. Elle allait 5 fois par semaine à la piscine. Ensuite, moi, quand j'étais tout gamin, je sais pas, à l'âge de 3 ans, je sautais dans le grand bain alors que je savais pas nager.
Ouais, du côté kamikaze.
La flotte, ça m'a toujours attiré. Après, j'ai découvert le grand bleu à l'âge de, je sais pas, 5-6 ans. Et en fait, à partir de là... ça a marqué ma vie. Enfin, ce film a marqué ma vie et ça m'a vraiment bouleversé, quoi. C'était un bouleversement positif, hein, bien sûr, parce que ce film, je l'ai regardé, mais je sais pas combien de fois. Quand je rentrais de l'école, je le mettais en boucle, et la cassette à la fin, elle était HS.
Wow.
Voilà.
Elle était VHS. Putain, les jeux de mots. Attention, ça va trop vite.
Énervé HS.
Ah, c'est ça. Ah ouais, non, d'accord. Il y en a qui mettent. Des dessins animés, des trucs comme ça, toi, tu mettais le grand bleu.
Ah, moi, je mettais le grand bleu, ouais. Et c'était en boucle. Après, j'ai eu aussi un passif de nageur où j'ai nagé pendant plus de 10 ans. Donc ça, c'est quand j'étais un peu plus âgé. Et finalement, l'apnée, ça arrivait tard. Parce qu'avant, il y a une dizaine d'années en arrière, les clubs d'apnée, ils n'étaient pas aussi nombreux que maintenant. C'était plus difficile. On n'avait pas forcément accès à Internet comme aujourd'hui. Les informations, c'était plus difficile à aller chercher. Et finalement, moi, c'est la plongée bouteille où j'ai commencé parce que je ne trouvais pas de club et j'avais quand même envie de mettre la tête sous l'eau. Et voilà, j'allais en Asie, je voyageais en Thaïlande, j'allais passer mes niveaux là-bas. Et un jour, je suis tombé sur un club. C'était à Bali okay. En 2012. Non, c'était au Gili Travangan.
Ok.
Et j'ai passé mon premier niveau d'apnée là-bas en 2012. Et à cette époque-là, j'étais encore à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'étais encore pompier. Et en fait, ça a été une révélation. Parce qu'à l'époque, j'avais envie de devenir instructeur de plongée en bouteille. Et l'apnée, en fait, je m'étais dit, on verra si un jour j'arrive à en faire. Et ce jour-là est arrivé, et je me suis dit, en fait, mais ce n'est pas la plongée bouteille que je veux faire, c'est l'apnée. Moi, je veux enseigner l'apnée, je veux être instructeur d'apnée, je veux que ça devienne ma vie. Tu vois. Et à l'époque, j'étais encore pompier, et il me restait encore une année à faire à la brigade. Et du coup, j'ai terminé mon contrat chez les pompiers. Et un an après, quasiment jour pour jour, je débarquais aux Philippines pour devenir instructeur. Donc, j'ai passé tous mes niveaux instructeur et je suis parti bien en tête m'installer là-bas. Quoi.
À Moal Boal, là où je t'ai rencontré la première
Exactement,
fois.
Exactement, ouais.
Sur l'île de Cebu.
Ouais, à Moal Boal, ouais.
Putain,
ouais.
C'était en 2015, un truc comme ça. Ah, par là, quoi.
Mon premier voyage, c'était en 2013, mais ouais, j'ai fait 2013, 2014 et 2015, où je vivais l'hiver aux Philippines, où j'enseignais l'apnée. Et l'été, je revenais sur les plages en France pour être sauveteur.
Ça me fait triper parce qu'effectivement, tout ce parcours-là, tu vois, c'est vraiment incroyable. Et justement, moi, c'est ça que j'aime bien. Moi, je le sais aussi parce qu'à mon petit niveau, j'ai fait aussi de la bouteille et de l'apnée.
Ouais.
Pour toi, c'est quoi la différence entre justement la plongée bouteille et la plongée en apnée?
Alors, je vais te répéter ce qu'un grand disait. Ouais. La plongée en bouteille, tu regardes à l'extérieur, et la plongée en apnée, tu regardes à l'intérieur. Et en fait, c'est complètement vrai, quoi, parce que quand on me demande, tu vois quoi à 100 mètres, t'as des gros poissons, t'as des machins, t'as des trucs. Ah non, mais moi, je vois strictement rien. Déjà, j'ai pas de masque, j'ai pas de lunettes. Je descends, j'ai juste un pince-nez sur le pif.
What?
Ouais,
ah ouais?
J'ai strictement aucun appareil qui me permette de voir. De toute façon, il n'y a rien à voir. Qu'il n'y a que du bleu, éventuellement il peut y avoir un requin par-ci par-là, mais bon, c'est pas pour ça que j'y vais, quoi. Et c'est vraiment ça, en simplifiant, la bouteille, tu vas pour voir des poissons, pour explorer, et l'apnée, tu explores, mais à l'intérieur de toi, quoi. Et c'est tout à fait vrai, je trouve.
Et je suis entièrement d'accord. Et je rajouterais que à un autre niveau où t'es pas dans le mode j'ai envie de descendre, quand tu commences à être en capacité à un petit niveau, tu vois, à rester une minute en apnée dynamique, donc l'apnée dynamique, c'est tu es sous l'eau en train d'évoluer, de nager, de palmer.
Ouais, tout à fait.
Tu vois, une minute déjà, moi, c'est ce que j'arrive à faire, une 20. Et ben en fait, moi, c'est ça que j'adore en fait dans l'apnée, c'est me donner la capacité de rester sous l'eau parce que la plongée bouteille, c'est.
C'est ça.
Et t'as un truc lourd sur le dos.
C'est pas naturel.
Là, tu te sens léger. Pour moi, il y a un truc qui est incroyable. C'est qu'en plus, il ne suffit pas de descendre très profond pour avoir cette sensation. Hein.
Non,
t'es à 4, 5, 6, 10 mètres et tu te sens comme Thomas Pesquet pour le coup. C'est-à-dire que c'est le seul endroit sur Terre où tu te sens comme dans l'espace. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens au-dessus, des gens en dessous.
Exactement.
Tu peux te retourner dans tous les sens et tu peux aussi voir. Alors des fois, c'est souvent le plus beau, c'est à 3, 4, 5 mètres en vrai. Hein. Tu n'as même pas besoin d'aller descendre très bas. Tu as des récifs qui sont un peu plus bas à 10 mètres ou tu peux avoir des épaves. Mais tu
bien
peux
sûr,
vraiment avoir des choses accessibles.
Mais tu peux faire des trucs de ouf hein, à 5 ou 10 mètres.
Hein.
Moi, ce que je fais, c'est de l'apnée, c'est de l'apnée extrême. Mais descendre à 5 mètres, aller nager sur un riff, aller faire coucou à une tortue ou rentrer dans une épave, comme tu le dis, c'est de l'apnée. C'est carrément de l'apnée. Et c'est là l'essence même de l'apnée. C'est pouvoir aller explorer le monde sous-marin à l'aide de tes propres capacités pulmonaires et puis de ne pas être trop intrusif.
Mais je trouve que tu le découvres, comme tu disais, avec cette capacité de l'instant présent. C'est-à-dire que tu oublies tout le reste. Tu sais, il n'y a plus ce côté où quand tu es en plongée bouteille, il faut toujours checker ton body, il faut faire gaffe à tes niveaux.
À ton niveau, tu as de l'oxygène.
Tu es
sur tes alarmes internes.
Voilà. Et quand tu es là, en fait, quand tu regardes un corail ou quand tu regardes un poisson, il y a un truc qui fait que tu es ancré.
Ouais.
En plus, tu sais que tu ne peux pas rester 45 minutes. Enfin, moi, perso, non.
Une minute
je suis bien chaud. Et en fait, c'est plus pareil. Il y a tout qui ralentit. C'est ton moment à toi, en fait.
Et puis, tu es léger. Tu te sens super léger. Tu as juste une paire de palmes, un masque et puis c'est parti. C'est ce côté minimaliste, en fait.
Exactement.
Qui me plaît,
côté simple. C'est parce que les bouteilles, il faut les recharger. Il faut un bateau.
Ouais.
Ou tu peux partir de la plage, mais machin. Là,
quand il y a trop de matos, moi, tu me perds. Minimaliste. Voilà, tu prends un masque, tu bats à la rigueur, même juste le masque, et puis c'est parti, un slibar et on y va.
Exactement.
Et c'est ça qui me plaît dans l'apnée, c'est ce côté minimaliste, vraiment. Ouais.
Je sais. Et tu peux vraiment faire un truc marrant.
Bouteille, moi, je me fais chier.
Maintenant, pareil, c'est un peu ça. En fait, maintenant, la bouteille, je le fais quand j'ai des spots que je sais que je ne pourrais pas atteindre en apnée. Typiquement, ça peut être des passes. Il faut quand même rester un petit peu, tu vois, dans les ponts polynésiques, etc.
Ouais.
Pour rester accroché, il ne faut pas bouger. Donc, c'est de la plongée technique, c'est de la plongée
requin.
Mais tu
deviens exigeant.
C'est de la plongée épave. Où tu sais que l'épave, elle est profonde. Souvent, les épaves sont profondes. Mais en vrai, regarde, ma dernière grosse session d'apnée, c'était il y a un an, deux ans, je crois. Et c'était à Bali, à Ahmed, avec Nico.
Ah ouais,
notre
elle
pote
est magnifique,
Nico,
cette épave, en plus.
Et le Liberty. Et en plus, il m'a dit que c'était une épave qui, normalement, était blindée de plein de gens. On était tous les deux dessus, en fin de journée. Et il m'a emmené à mon petit niveau, parce que Nico, je raconterai la petite histoire après, qui est aussi passé sur ce podcast. C'est ça. Et en gros, il m'a fait passer dans les salles. Tu vois, donc tu t'attaques à 10. 10, tu as le début de l'épave et tu descends jusqu'à 16, 18. Et
elle est incroyable, cette épave.
C'est marrant. Parce que même à un petit niveau comme moi, tu peux en profiter, tu peux faire un truc assez ouf.
Ah non, mais c'est clair. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve qu'en plus, les épaves en apnée, ça a un côté encore plus mystique. Tu vois, t'es là, t'es en mode explorateur. Tu rentres, t'es là avec ta petite lampe, tu vas voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. T'es en mode explorateur des mondes sous-marins. C'est génial. Moi, j'adore. Les épaves en apnée, c'est pépite.
Et justement, pour revenir sur sur championnat, sur tout ce process d'apnée, ça a été quoi justement parce qu'on a parlé de ce que tu ressens, mais qu'est-ce que tu retiens de ce championnat, de cet accomplissement, tu sais? Et qu'est-ce que tu retiens personnellement? Qu'est-ce que tu retiens émotionnellement? Comment tu le décrirais, ça?
Tu sais, j'ai fini ce championnat. Je vais raconter une autre anecdote après. Honnêtement, j'étais lessivé. J'étais lessivé émotionnellement et physiquement. Sur ma dernière plongée, j'ai fini en larmes et j'arrivais plus à marcher. Voilà, pour te donner une idée.
Ah, j'ai envie de dire, si tu plonges, tu marches pas, tu plonges. Donc ça, ouais. Ça va, c'est pas grave. Après. Et si tu pleures, il y a déjà de l'eau.
Après.
Après. Ah ouais. Non,
c'était une expérience humaine, en fait, avant tout. Parce que humaine, personnelle, de partage, ça a été hyper, hyper puissant. Parce que pour aller à ces profondeurs-là, il faut un engagement total. Tu peux pas faire le truc à moitié. C'est, tu te donnes à 100% et tu vas chercher tes ressources, mais tu vas franchement. Mais moi, j'avais l'impression d'aller creuser à la pelle dans ma tête, quoi. Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. En gros, sur ma dernière épreuve, le poids constant avec monopalme, j'annonce une profondeur de 101 mètres. Tu sais, c'était la petite anecdote que je voulais te garder en surprise.
J'essaie d'aller la chercher. Je suis content qu'elle soit revenue.
C'est bien, elle est sortie.
Du coup, je suis impatient de la connaître.
Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur cette plongée ? Donc, j'annonce 101 mètres. C'est un mètre de plus que mon max. Mais je ne me sens pas plus stressé par rapport à ça. Je trouve que les 100 mètres, ils sont déjà bien ancrés, surtout par rapport à la précédente plongée que j'ai fait avec très peu de temps de préparation. Voilà, je me dis, un mètre, bon, ça ne va pas être the big deal. Ce qui s'est passé dans cette plongée, en fait, c'est que les juges, ils accrochent à ton poignet une montre officielle, une montre d'apnée pour vérifier la profondeur à laquelle tu as été. Voilà. Ça fait partie d'un des trucs qui se passe. Sauf que sur cette montre, ils avaient oublié de désactiver une alarme. Mais attends,
attends, j'allais sortir une connerie et le truc se met à sonner.
Ouais,
non, c'est vrai en plus.
Eh ben, tu crois pas si bien dire. Écoute bien l'histoire. C'est pas juste un bip qui s'est mis à sonner. En fait, il y avait une notification de profondeur à partir de 30 mètres. Et en fait, à partir de 30 mètres, il y a l'alarme qui s'est mise à se déclencher. Mais ce n'est pas un bip, c'est un bip, 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 bip. Et ce bip-là, il a sonné de 30 mètres jusqu'à 101 mètres et de 101 mètres jusqu'à la surface. Je te laisse imaginer.
Moi, mon alarme qui fait ça plus de 10 secondes, ça me casse la tête.
Ouais.
Donc là, quand tu...
Wow. Et en fait,
ultra dangereux, quoi.
Bah, ça m'a complètement déconcentré, déstabilisé. Mais bon, tu me connais, moi, j'y suis quand même allé, j'ai pas fait demi-tour. Chose que j'aurais dû faire pour le coup. Je pense qu'avec du recul, j'aurais dû abandonne, tourne et si tu vas de toute façon, tu replongeras, on te donnera la permission de replonger. Et en fait, moi, je suis un petit peu têtu. J'ai dit non, il faut que j'y aille, machin, nani, nana, championnat du monde. En plus, il y avait le dive-eye. Le dive-eye, c'est le drone subaquatique qui te suit pendant toute ta plongée. Donc, dans un coin de ta tête, tu sais que…
Ça existe. Je ne savais pas que ça existait, ça.
Si, je t'enverrai les liens.
Putain, stylé.
Ouais. Donc, dans un coin de ta tête, tu te dis, putain, il y a tous mes potes, il y a ma famille.
Filmé,
je ne vais pas faire demi-tour à 30 mètres quand même. Ils vont me prendre pour un gland.
Donc, l'archouma,
moi, j'y vais. J'y vais, balek. Sauf que cette putain d'alarme, elle a sonné, sans jamais s'arrêter. Mais bon, j'ai quand même essayé de rester concentré dans mon truc. Pour preuve, j'ai réussi à compenser jusqu'en bas, j'y suis allé. Mais voilà, je savais qu'il y avait une partie de ma tête qui était déconcentrée, qui était avec ce bip-là qui te derrière ta tête. J'arrive en bas, je remonte, j'amorce la remontée, tout va bien, je palme. Et en fait, jusqu'à la surface, tout va bien. Et à la surface, j'attrape la corde, je respire, je fais mes deux coups de respi, j'enlève le pince-nez. Et en fait, je tombe en arrière. Et là, c'est pas validé. Et c'est pas validé parce que les sécu, en fait, ils me retiennent pour m'empêcher d'avoir les voies aériennes qui tombent dans l'eau et que je fasse un début de noyade. Mais c'était presque pas une syncope, en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle une perte de perte moteur.
Ouais.
C'est vraiment l'hypoxie qui en cause et après ça, tu peux tomber dans les pommes, quoi. Voilà, donc malheureusement, je ne valide pas cette plongée.
Comment tu dois être tellement deg.
Je suis déçu.
Comment tu fais ? Est-ce que tu l'as du coup, de par cette concentration, cette méditation, ce lâcher prise ? Parce que tu dois être, tu dis c'est injuste, tu dois avoir de la colère. Moi je serais comme ça, je dis putain, dans de trous de balle là, putain, tu peux pas couper l'alarme, merde, c'est ton taf, t'as que ça à faire.
Il y avait de la colère, mais en fait, je la ressentais pas, en fait. Là, j'ai pas du tout ressenti de colère, mais j'ai senti un peu de déception parce que j'ai pas réussi ma plongée, mais finalement pas tant que ça, parce que je me suis dit, en fait, tu as fait une super saison, tu as éclaté les 100 mètres dans deux disciplines, tu as validé 100 mètres en compète. Voilà, celle-là, c'était the cherry on the cake. Ouais. Voilà, c'est pas passé, mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai fait tellement de belles choses à côté que ce que je disais, franchement, je suis presque pas déçu parce que voilà, ma saison, elle est belle et j'ai fait des super trucs avant. J'ai validé 95 en immersion, j'ai fait un super 50 mètres à la brasse. Je me suis régalé, j'ai pris du plaisir. Voilà, bon, c'est pas grave. Et en fait, après ça, il y a un rebondissement. Il y a un. C'est ça, un rebondissement.
Ouais, rebondissement.
Un rebondissement.
Bah, ça dépend, qu'est-ce que c'est?
Et ça rebondit. En fait, ce qui se passe, dans mon annonce, elle était cinquième. C'était cinquième annonce. Sauf qu'il y a deux mecs devant moi qui ne valident pas leur perf. Du coup, j'aurais pu être troisième. Donc, du coup, je deviens la troisième annonce, troisième performance. Et là, on a la possibilité dans les compétitions de faire des protests quand il y a des trucs qui ne se passent pas bien ou qu'il y a une équité par rapport aux autres athlètes qui n'est pas respectée. Là, c'était mon cas parce qu'ils n'avaient pas désactivé cette fichue alarme. Donc, je fais un protest, je gagne et on me donne la possibilité de replonger. Sauf que cette possibilité de replonger, elle se fait que le lendemain parce que c'est le dernier jour de plongée et il n'y a que à ce moment-là que je peux plonger. Donc, moi, j'ai mon coach qui m'appelle. Il me dit, écoute, là, il y a un truc à jouer. Tu es potentiellement troisième. C'est rare d'aller décrocher une médaille de bronze à ces profondeurs-là. Normalement, ça se joue un peu plus profond. Voilà, prends-en conscience. Mais bon, voilà.
Le bâtard, il t'envoie au charbon, quoi.
Il m'envoie pas au charbon,
Il t'envoie au charbon, le coach. Tu l'as fait deux fois. Troisième, merde.
Vas-y.
Bernard,
après c'est les vacances.
Ah, putain.
Et moi, je suis un compétiteur dans l'âme, une médaille de bronze au championnat du monde, je peux pas cracher dessus, quoi. Je peux pas dire oh non, j'en veux pas, c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. Ben non, moi je suis, comme je t'ai dit, je suis un battant, je joue la gagne et je décide de rejouer, quoi.
Ah ouais?
Ouais, j'ai rejoué.
Fucking shit. Attends, déjà, t'es pas mort. Déjà, t'es pas mort.
Je suis pas mort, non.
Parce que si t'es là, t'es pas mort.
Je suis toujours pas mort.
Oh, putain.
Mais cette décision-là, elle a été super dure à prendre parce que je savais que j'étais entamé physiquement, je savais que j'étais entamé mentalement et enchaîner deux plongées à 100 mètres coup sur coup, je savais que ça allait être très, très dur. Tant physique que mental. Et en plus, moi, c'était, tu vois, j'avais déjà fini, tu vois, c'était la fin des championnats.
Ouais.
Dans la redescente où j'étais presque allé commander des bières, aller picoler sur la plage, ta ta ta. Et le coach qui m'appelle, non, c'est pas fini, il y a encore un truc à faire.
Oh là là.
Donc, ascenseur émotionnel, tu vois, donc je redescends, il y a toute la pression qui se relâche, bam, 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 je relâche tout. Et là, on m'appelle, on dit, il faut retourner en selle. Et moi, je retourne en selle. Bah ouais. Eh oui, il faut.
T'as pas réussi.
Non, 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 ça, ah ouais. Ça n'a pas passé. Mais bon.
J'ai envie de comment ça là,
c'est vraiment le cheminement mental qu'il m'a fallu pour me remobiliser, pour retourner l'affaire, cette plongée. Parce que t'imagines, j'étais déjà. La Bien pression sûr. Était redescendue. Pour moi, c'était déjà la fiesta. Et en fait, c'est un bouleversement, quoi. Donc, mentalement, dans la tête, moi, j'ai eu la sensation de prendre une pelle et d'aller creuser mais les derniers grains de motivation, de trucs qui pouvaient me rester au fond du crâne, au fond du corps. Et je me suis vraiment
essoré, quoi. Ah ouais,
ouais. Essoré,
mais,
quoi.
Attends, mais c'est intéressant. Comment tu fais pour avoir aussi, du coup, toi qui es dans la gang, toi qui es à deux doigts d'avoir une troisième place, avoir la maturité, le recul, le courage de dire non? Parce que quand tu n'as pas validé, c'est que tu es remonté avant, tu n'es pas descendu jusqu'à 100. Qu'est-ce qui s'est passé?
Si, j'étais descendu jusqu'à 100 mètres. Mais c'est jusqu'à la surface, en fait, j'ai pas validé à cause de la tête qui s'en va en arrière.
Une deuxième fois?
La deuxième fois, pareil, ouais. Ouais.
Ah, mais de toute façon, j'ai toujours dit que tu prenais la grosse tête, toi. Arrête, franchement.
Elle est trop lourde.
Ouais, attends, mais t'as quand même fait. Ah, en tu fait, l'as quand même fait.
Ouais, j'y suis retourné. Ouais. J'y suis carrément retourné.
Oh la vache, t'es un malade.
Mais là, c'est le mental de guerrier qui m'a fallu. Hein.
C'est génial.
C'est le guerrier, c'est énormément de courage parce que j'avais les pétaches.
Ah ouais.
Parce que je savais que c'était un coup de poker. Et puis, il y avait en plus cette histoire de podium que je jouais. Quoi. Il y avait cette troisième place, il y avait ce podium, la médaille de bronze, championnat du monde, qu'il a fallu complètement mettre de côté. Parce que ça, c'est pareil, ça n'avait pas sa place. Il fallait que je l'écarte. Et c'était vraiment les œillères, la plongée, faire quelque chose que je sais faire, aller à 100 mètres, remonter et prendre mon pied. C'est ce que je m'étais mis dans la tête.
Non, mais c'est là où tu vois aussi que la respiration, le moment présent, ça, c'est.
Ouais.
On pense toujours esprit de guerrier, c'est.
Non,
ça gueule.
Non, en fait,
c'est. Tu vois, moi qui regarde, j'ai regardé The Last Dance sur Netflix, donc il y a le reportage sur Michael Jordan et les Bulls sur leur dernière saison.
Ouais.
Et même, j'ai lu le livre de. Enfin, j'ai écouté le livre de Phil Jackson, qui est leur coach, et il dit en fait, moi, ce que je leur fais faire, c'est pas des moments de motivation juste avant le match, c'est l'inverse. C'est un moment de calme. Il les faisait méditer, mec. Et ça, personne ne le savait. Il les faisait méditer 5-10 minutes. Il les faisait méditer. Alors, ça leur cassait les couilles, il y en avait, mais il dit non, c'est calme et silence. On se concentre pour. Exactement.
Ouais.
Et je sais que toi, tu interviens aussi, du coup, dans les entreprises, en conférence, justement, sur le rôle de la respiration, sur comment gérer le stress. Parce que, évidemment, quand tu es dans une grande boîte, quand tu es un top manager, quand tu as la pression de faire du chiffre d'affaires, des millions d'euros avec des dizaines de centaines de milliers d'employés. Tu t'es soumis à une grosse pression, je sais que tu interviens là-dessus, et c'est là où on voit en fait l'utilité en fait du calme, de la respiration, de la zénitude pour en fait.
C'est une boîte à outils en fait.
C'est ça, tu joues ta vie, mais tout se passe bien parce que tu es préparé mentalement, tu es préparé physiquement à ça.
Il faut arriver à relativiser, il faut faire la part des choses, il faut prendre conscience de qui on est, de quelle force on a, et la respiration est un rôle clé là-dedans où tu accompagnes vraiment ton corps, et en fait ta respiration tu peux lier des émotions à ta respiration en fonction de comment tu vas respirer. Ton état d'esprit peut changer soit dans l'hyperactivité, soit dans l'hypoactivité. Et tout dépend en fait de ton type de respiration, de quel état tu vas aller chercher. Et moi, j'avais clairement un état de relaxation et de lâcher prise où il fallait que je fasse la part des choses entre la recherche de performance, la relaxation, le stress, les championnats du monde. Il y avait tout un tas de paramètres dans ma tête qu'il fallait que je priorise ou que je mette de côté. Donc, c'était… Non, franchement, moi, cette chance de replonger… En fait, pour moi, ça a été une incroyable expérience, un gain de maturité, de force.
Ah.
Mais j'en ressors, mais 100 fois plus fort
que tu imagines.
Mais
ouais,
bien sûr, même si j'ai pas réussi cette plongée, moi, j'ai pas échoué. C'est pas un échec. C'est pas un échec en soi. C'est pour moi, c'est une véritable succès, une victoire, et j'en garde que du positif parce que.
Génial.
J'ai réussi à me transcender, à me dépasser, à dépasser mes peurs, à y aller, à garder mon calme, mon sang-froid, et dans une situation qui était loin d'être facile. Et en fait, pour moi, c'est cette expérience-là qui est la plus valorisante. Même si derrière, j'aurais pu avoir une médaille de bronze, ça aurait été magnifique. Je dis pas le contraire, mais c'est
pas
grave.
Je veux dire, moi, Mathieu, moi, t'es mon champion. La vérité, t'es mon champion. Je te le dis, t'es mon champion. Bien sûr, t'es mon champion. Et tous les gens qui nous écoutent, t'es leur champion. Justement,
voilà, la médaille ça aurait été le petit la cerise sur le gâteau. Mais moi je regarde vraiment l'apprentissage, ce que j'en retire, comment ça m'a fait évoluer, comment ça me fait grandir, et les forces que je vais les prochains championnats. Mais je vais arriver, mais je vais être en mode. Tu vois ce que je veux dire, c'est cette expérience là qui me nourrit, qui me fortifie.
Ça t'a donné envie encore de continuer en tout cas.
Bien sûr. Oui. Je pense déjà à l'année prochaine.
Putain, c'est fort. Si tu avais un conseil justement, tu sais, pour se dépasser, tu sais, je pense que dans la vie, peu importe le niveau qu'on a, il y a toujours des moments où on atteint un plafond, un palier, où on se sent dire boum, là j'ai du mal à passer un step. Peu importe que tu sois déjà fort ou tu tapes toujours des paliers. C'est quoi toi les conseils, les leçons que tu as retirées pour justement arriver à dépasser un palier, dépasser peut-être une pensée limitante, arriver à grandir, évoluer. C'est quoi, quel conseil tu donnerais aux gens?
Alors moi, si je devais donner un tips, c'est ne jamais, jamais, jamais lâcher. Ne jamais lâcher prise. En fait, peu importe dans quelle situation tu te trouves, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que si tu y crois, si tu crois en toi, si tu te donnes les moyens, tu travailles pour, tu vas y arriver. Un jour ou l'autre, moi, j'en suis persuadé. Et moi, ça a été ma force, ça a été mon leitmotiv depuis que je suis, allez, peut-être pas gamin, mais ça fait de nombreuses années maintenant. La persévérance, c'est ma plus grande force, je pense. C'est vraiment ne jamais lâcher prise. Et tout à l'heure, tu reparlais de mes progressions. La première fois que j'ai passé les 90 mètres, c'était il y a 4 ans. Il m'a fallu 4 ans pour arriver de 90 à 100 mètres. Tu te rends compte un petit peu?
Wow.
Les 100 mètres, en fait, ça a été dans un coin de ma tête, mais ça n'a jamais été une fin en soi. Ça n'a jamais été l'objectif ultime. Je savais que j'allais les passer, je savais que j'allais y arriver, je ne savais pas quand, mais ce n'était pas la fin en soi. Il fallait absolument que j'aille à cette destination-là. Ce n'est pas ça, en fait. C'est vraiment la façon dont j'y arrive, la façon dont je passe par des détours, des chemins, des... voilà, il y a des moments où je me suis cassé la gueule. Ça arrivait plus d'une fois. J'ai fait c'est des performances, des contre-performances, des re-contre-performances. Et c'est dans ces moments-là, en fait. Non, mais tu vois, là, on parle des 100 mètres, on parle de la réussite, mais je me suis effondré plein de fois. Il y a plein de fois où j'ai pas réussi. Et en fait, ma force, c'est de ne pas avoir lâché, quoi, et d'avoir cru en moi et de me dire retourne-y, recontinue, commence, recommence, bats-toi. Et c'est en me battant que j'y arrive, quoi. Et tu vois, j'ai fait une intervention dans une école il y a pas si longtemps que ça, et ouais, c'est cette valeur-là que j'ai transmise aux gamins. J'ai transmis deux valeurs. La persévérance et croire en ses rêves. Parce que moi, quand j'étais gamin, j'étais un putain de rêveur. Et les profs, ils disaient « Mathieu a la tête dans les étoiles. Mathieu a la tête dans les nuages. Il rêve, il n'est pas là. » Mais j'avais des rêves plein la tête. Et en fait, ces rêves-là, je les ai nourris, je les ai cultivés, et jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Parce que pour moi, un rêve, il ne doit pas rester dans la tête, il ne doit pas rester comme ça, il doit être vécu. C'est vraiment ça qui me fait me surpasser tous les jours.
C'est charmant. Merci pour ce partage. Justement, j'aime bien terminer ce podcast par deux questions un peu traditionnelles.
Ouais.
La première, c'est si je te file les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un moment de tes expériences d'apnée.
Ouais.
Laquelle ce serait?
Un moment de mes expériences d'apnéiste. Oula, c'est compliqué.
C'est peut-être pas la plus folle, c'est peut-être pas la. Tu sais, je te dis, il y a des moments comme ça qu'on aimerait revivre pour un moment spécial.
Moi, je pense que c'est tout simplement quand j'étais à Molboal avec Nico et Gilles, qu'on allait plonger tous les jours, qu'on allait nager sur le reef et que c'était notre lifestyle, quoi. On allait le matin, on plongeait, l'après-midi on plongeait, le soir on plongeait. Enfin, c'était on faisait que ça, il y avait que ça qui comptait. Le vodka Joss aussi un petit peu.
J'ai bien aimé, moi, ce très sympa comme bar.
Non, mais si je voulais revivre un moment, c'était ce moment là où on était avec Gilles et Nico, on était tous les trois, et c'était on était des frères, et on était c'était notre vie là-bas, Molboal. Et c'est des émotions que j'en garde un souvenir impérissable. Et j'aimerais les revivre, pour de vrai.
On a une grosse pensée pour Gilles, évidemment, ça c'est sûr. Pensée pour lui, si tu nous entends.
Ouais.
Et une pensée pour Nico aussi, qui de toute façon sera obligé d'écouter ce podcast.
Il va être obligé, on va le torturer.
On va le torturer. Dernière question, si tu devais justement résumer ton lifestyle, ta vie, ton parcours à travers dans l'apnée, à travers une punchline, une citation, une phrase de ta création, ce serait laquelle?
Si tu ne pourchasses jamais tes rêves, tu ne pourras jamais les attraper.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, j'adore. C'est simple et efficace.
Ouais.
Mathieu Marayo, notre cher champion. Franchement, c'est incroyable. Merci d'avoir pris le temps à chaud, parce que c'était il y a une semaine que tout ça s'est passé. Quand j'ai vu
très,
ça,
très chaud, ouais.
J'ai dit, tu te dépêches de venir. On se calme. Je veux que ce soit à chaud que tu nous transmettes ça. En tant qu'ami, je suis très, très admiratif et fier de toi, mec. Vraiment, c'est incroyable ce que tu as fait.
Merci.
Le grand parcours, il est très inspirant.
Arrête, je vais pleurer.
Ouais, c'est pas vrai. Non, vraiment, c'est incroyable. Et je trouve que ton témoignage, il est magnifique. C'est une source d'inspiration et, comme tu dis, de persévérance.
Ouais.
Tu n'avais rien de plus que n'importe qui. Pourtant, non. Tu l'as fait sur la persévérance et ça t'a peut-être pris deux fois plus d'efforts qu'un autre. Et tu y es arrivé.
Ouais.
Et ça, c'est fort. Donc, je te remercie beaucoup. Pour ceux qui veulent suivre Mathieu, évidemment, le lien de ses réseaux est dans la description du podcast. Je mettrai aussi son mail si vous avez envie de le faire intervenir dans votre société sur du coaching mental ou sur la gestion du stress. Évidemment, ce sera avec grand plaisir. Je vous mets ses coordonnées dans la description. Et moi, Matt, je te dis du coup à l'année prochaine pour le
nouvelles aventures.
Ça, pour la médaille, quoi. Pour la médaille.
Yes,
après l'année prochaine.
Carrément.
Ça marche.
Et on va peut-être aller se faire un petit coup de surf, un de ces quatre.
Ça peut être bien sympa.
Allez boire une petite bière, ça serait cool.
Je pense qu'avant, on va se faire offline des trucs sympas. Effectivement.
Grave.
Ciao, mon pote. Merci encore.
Salut, Alex. Merci à toi.
Ciao.